Les chapitres suivants. Le puissant protecteur, l'archange Raphaël. Le Christ, sous les traits du pauvre. Les protecteurs épiscopaux et une réconciliation retentissante. Ce miracle de bilocation, qui lui a permis d'agir dans le même temps en deux lieux différents, a été attesté par des historiens ecclésiastiques dignes de foi. Autre fait, par une nuit glacée, en revenant de ses quêtes, Jean rencontre un pauvre estropié qui lui réclame son aide. Quoique bien chargé, il le relève, le transporte à l'hôpital, mais ses forces le trahissent et il tombe à genoux. Une personne du voisinage, témoin de la scène, déclare avoir vu alors un jeune homme d'une beauté merveilleuse s'approcher de Jean et replacer l'infirme sur ses épaules. Puis l'inconnu lui tend la main, veut l'accompagner jusqu'à l'hôpital et lui dit « Mon frère Jean, c'est Dieu qui m'envoie pour vous assister dans votre mission charitable. Je suis l'archange Raphaël et Dieu m'a confié la garde de votre personne et de tous ceux qui viendront se joindre à vous. Quelques jours après, le pain va manquer au moment du repas et l'argent fait défaut pour en acheter. Que faire ? Jean espère un secours providentiel. À ce moment, la porte de la salle s'ouvre. Un adolescent paraît, chargé d'une pleine corbeille de pain. Le jeune messager dépose les pains sur une table et dit à Jean d'un ton affectueux et enjoué « Mon frère, nous formons un seul et même ordre, car il y a des hommes qui, sous un humble vêtement, sont les égaux des anges. Prenez ce pain que le ciel vous envoie pour subvenir au repas de vos pauvres. » L'archange Raphaël, car c'est encore lui, disparaît pendant que Jean et les malades remercient le Seigneur. Ainsi le Père des pauvres est assisté par les anges, mais Dieu lui accorde une grâce plus grande encore. Un jour, en traversant une place de Grenade, Jean remarque un gueux couvert d'affreuses plaies et abandonné à son malheur. Ému de compassion, il le prend avec précaution sur ses épaules et l'emmène afin de pouvoir lui prodiguer ses soins. À l'hôpital, à genoux devant cet infortuné, il s'apprête à lui laver les pieds. Or, voici qu'un double rayon lumineux s'en échappe. Jean y voit briller les divins stigmates de la passion. Il lève les yeux. Son regard rencontre le visage plein de douceur et de majesté du Christ Sauveur. Jésus lui dit, « Jean, tout le bien que vous faites aux malheureux en mon nom, c'est à moi-même que vous le faites. C'est moi qui vous tends la main pour recevoir les aumônes que vous leur donnez. Je suis revêtu des habits dont vous les couvrez. Je compte tous vos pas, toutes vos démarches, et je vous en récompenserai. » À ces mots, Jésus disparaît, laissant Jean tout brûlant d'amour divin pour le reste de ses jours. Ces paroles expriment en toute vérité la vocation de Jean et de ses fils, les frères hospitaliers. Malgré le silence de Jean sur les faveurs qu'il reçoit du ciel, ses faits ont des témoins. On en parle avec éloge dans la ville et les aumônes affluent à l'hôpital. Comme le nombre des hospitalisés augmente aussi, Jean loue une maison plus vaste où il transporte tout son monde. Il adopte l'organisation qui a fait ses preuves et continue à grouper les malades par catégorie et par salle, suivant les maux qui les affectent. Un visiteur éminent se présente, c'est l'archevêque de Grenade, Don Guerrero. Il veut voir de près l'hôpital et son fondateur. L'archevêque constate avec satisfaction l'ordre, l'hygiène et la propreté qui règnent partout, les soins diligents et les secours spirituels que reçoivent les malades, et il loue le dévouement éclairé de Jean. À dater de ce jour, il prend l'établissement sous sa protection et lui attribue des sommes importantes. Son exemple est suivi par des personnes riches. Jean pourra compter sur son paternel appui jusqu'à la fin de sa vie. Ses subsides providentiels soutiennent l'hôpital et Jean veut en profiter pour atteindre plus de malheureux encore. Les mendiants sont toujours nombreux à Grenade et dès qu'ils aperçoivent Jean, ils courent réclamer son assistance. S'il n'a plus rien d'autre à leur donner, il lui arrive d'échanger ses habits contre leurs haillons. Un jour, enquêtant, il se présente dans un costume minable chez Don Ramirez, évêque de Tuy, président de la chancellerie royale de Grenade. Le prélat, surpris de l'accoutrement du solliciteur, n'en laisse rien paraître et interroge Jean avec bonté sur sa vie et son œuvre. Celui-ci lui répond avec confiance. Don Ramirez conclut ainsi ce cordial entretien. Vous vous appellerez désormais Jean de Dieu, puisque ce nom vous a été donné par l'enfant divin lui-même. De plus, voici l'habit que je vous destine, ainsi qu'à vos futurs compagnons. Celui que vous portez est conforme à votre humilité, mais il n'est pas digne de votre profession. Don Ramirez choisit l'étoffe et la forme du costume, qui sera celui de Jean de Dieu et de ceux qui partageront sa vie. Bientôt, il en survient d'eux à qui nul n'aurait songé. Ce sont des jeunes gens de la noblesse castillane, Antoine Martin et Pierre Velasco. Une haine irréductible les oppose, car dans un moment d'égarement et par suite d'un geste maladroit, Pierre a tué le frère d'Antoine. Ce dernier, dominé par un sombre désespoir, a fait emprisonner Pierre et soutient un procès pour l'envoyer à la potence. Entre-temps, il s'abandonne à ses vices qui font scandale à Grenade. Pourtant, il a compassion des pauvres et donne souvent pour eux de larges aumônes à Jean de Dieu. Nul ne peut fléchir l'implacable rancune d'Antoine. La mort infamante de Pierre est certaine. Jean de Dieu, qui veut ramener au Seigneur ses jeunes égarés, prie avec ferveur et tente l'impossible. Il aborde Antoine, lui présente son crucifix et lui dit avec cette conviction ardente, irrésistible, que lui inspire sa charité. « Mon frère, pardonnez à Pierre Velasco, comme votre sauveur a pardonné à ceux qui l'ont crucifié. Le sang de votre frère vous crie « Vengeance », mais le sang de votre Dieu vous crie « Miséricorde ». Pardonnez !» Antoine, troublé, se raidit, proteste et refuse avec emportement. Il a juré de venger la mort de son frère et il entend tenir son serment. Mais Jean de Dieu insiste et ses paroles persuasives, puisées dans la prière, bouleversent le jeune homme qui se laisse peu à peu convaincre. Sa haine, qu'il croyait invincible, lui apparaît injuste et mauvaise. Il la regrette. Avec courage, il y renonce. Sans délai, il décide de retirer l'accusation qu'il a portée contre Pierre pour le faire arrêter. Ainsi, le détenu sera libéré. Jean de Dieu emmène alors Antoine au cachot, où gît Pierre Velasco, désespéré par la fatale imprudence qu'il a commise, et angoissé par le terrible sort qui l'attend. Soudain, la porte de sa geôle s'ouvre. Pierre frémit en voyant entrer Antoine Martin. Vient-il lui annoncer la sentence de mort ? Mais Antoine tend la main à Pierre, le serre dans ses bras et l'assure avec chaleur de son pardon. Sous les yeux de Jean de Dieu qui les a réunis, tous deux échange le baiser de la paix, de l'amitié retrouvée et scellée dans l'amour du Christ. Peu après, Pierre sort de prison et les habitants de Grenade se réjouissent de l'heureuse issue de cette sanglante querelle. Une autre surprise leur est réservée. Un jour, Antoine Martin et Pierre Velasco viennent, ensemble, s'offrir à Jean de Dieu afin de servir les pauvres avec lui. Il leur fait visiter l'hôpital pour qu'ils sachent les difficultés et les sacrifices à prévoir. Leur résolution est inébranlable. Ils resteront avec lui. C'est ainsi que, par la grâce divine, les égarements de leur jeunesse deviennent le tremplin de leur sainteté. D'autres, comme Simon Davila, Dominique Piola, se joindront à eux et seront, eux aussi, d'admirables apôtres de la charité. Au reste, Jean de Dieu n'accepte aucun candidat sans avoir vérifié qu'il est résolu à se dévouer totalement et par amour du Seigneur aux plus déshérités de ce monde. La collaboration apportée par ses frères spirituels lui permet de se multiplier auprès des misères qui se révèlent à lui bien au-delà de l'hôpital. Divers faits qui manifestent la protection divine le font connaître.